Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure d'interaction avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour, qui est un puits de science dont nous n'avons pas encore aperçu le fond. Avec lui, on vous déconseille les parties de Trivial Pursuit et on vous conseille plutôt même de renoncer au battle d'Apéricube, car vous pourriez essuyer une humiliation assez cinglante dans le jeu télé le plus puissant de la mi-journée. Ce candidat pulvérise tous les records sous les yeux éberlués de Jean-Luc Reichmann. Lui, il est capable de vous expliquer comment Bob l'éponge fait pour faire cuire des steaks sous l'eau, ou bien même il peut vous expliquer aussi pourquoi les pizzas rondes sont livrées dans des boîtes carrées. Et ça, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau du Buzz TV.
Ben, merci beaucoup.
C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, vous êtes le plus grand champion de l'histoire des 12 coups de midi. Rien que ça, on espère que voilà, on vous met pas mal à l'aise en disant ça. Il s'agit du jeu diffusé à la mi-journée sur TF1 et toujours animé par le brillant Jean-Luc Reichmann. Alors, votre cagnotte, ça fait froid dans le dos. Elle s'élève aujourd'hui même à 979 307 euros. Vous totalisez 230 participations. Lorsque vous regardez votre palmarès dans le rétroviseur, est-ce que vous avez un peu le vertige?
Finalement, comme les émissions s'enchaînent et on les tourne les unes à la suite des autres, au bout d'un moment, on ne se rend limite plus compte. On fait une émission, puis une autre, et la cagnotte s'incrémente, etc. Donc au final, ce n'est pas comme si on jouait au loto et d'un coup, on gagne une énorme somme et on se dit « Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'en fais ?» La limite, c'est comme un travail, quoi. J'y suis depuis le 20 janvier, donc avec un salaire journalier assez intéressant. Mais du coup, voilà, finalement, c'est devenu une routine, une habitude. Et c'est vrai qu'à la fin, on perd. Souvent, les gens me demandent « t'en es à combien ?» Et je ne sais jamais à combien d'émissions j'en suis, quelle cagnotte. Il faut que j'aille sur Wikipédia pour vérifier à chaque fois. Donc je m'y perds un petit peu. Je ne suis pas à fond dans les chiffres. Je m'y perds un peu.
Et quel regard vous portez sur votre parcours? Parce que vous y êtes depuis janvier dernier, dans cette émission, dans les 12 coups de midi. Est-ce que vous pensiez, lors de votre première participation, que vous iriez si loin? Est-ce que c'était une possibilité que vous aviez au fond de votre tête?
Je pense que ça serait très arrogant de dire, évidemment.
Vous connaissez vos capacités, vous savez que vous êtes intelligent, que vous avez une culture générale.
Oui, mais je ne suis pas non plus le plus cultivé. Non, déjà au début, j'avais candidaté en me disant, allez, ça m'amuse, je suis fan de jeux télé, de quiz. Donc je me suis dit, au moins je verrai l'envers du décor et puis ça fera une expérience sympa, ça sera toujours drôle. Et puis après, quand je suis devenu maître de midi, je me suis dit, ça y est, l'objectif est accompli. Je pourrais dire, j'ai été maître de midi une fois dans ma vie, du coup, plus de pression. Et donc non, après, je me suis à aucun moment dit, allez, j'essaie d'en faire 20, 50, 100, j'essaie de rattraper Eric, Xavier ou je sais pas qui. Vraiment, je me suis dit, je prends les émissions les unes à la suite des autres et ça nous portera... Le max possible, mais en tout cas, je ne me suis jamais mis d'objectif, donc je ne me suis jamais douté que je tiendrais aussi longtemps.
Même à 230 émissions, vous ne vous dites pas, bon, allez, il y a peut-être un objectif, le cap du million, on imagine, après de 980 000 euros.
Quand on se rapproche des objectifs, c'est-à-dire que quand on n'était pas loin d'Eric et qu'on se dit, allez, je suis à 20 émissions, 10 émissions de devenir le numéro 1, ça serait bête de perdre avant. Et puis ensuite, il y a le record de Marie-Christine, de tout le monde veut prendre sa place, etc. Là, on se rapproche du million. Donc c'est sûr que quand on se rapproche d'un gros cap, on se dit, ça serait un petit peu ballot de perdre juste avant. Mais sinon, j'essaie de ne pas me mettre la pression. Et même si je perds juste avant, je ne le vivrai pas comme un drame. Je me dirais, j'ai fait un super parcours. Donc voilà, j'essaie de ne pas mettre la pression, pas d'objectif. Et tant que je m'amuse et que j'apprends des choses, pas de pression et on y va sereinement.
On va préciser que vous avez aussi battu le record du monde de nombre de victoires individuelles, c'est ça?
C'est vrai, individuelles, oui.
Exactement.
Il y a un groupe espagnol, je crois qu'ils en ont fait 500.
Exactement.
Dans Boom en Espagne. Ouais. Donc ouais, c'est victoire individuelle, ce qui est déjà pas mal quand même.
Peut-être que vous irez aux 500, on ne sait pas encore, mais on vous le souhaite en tout cas.
On se retrouve dans deux ans pour en parler.
Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, diffusé sur la page YouTube de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Bruno. Est-ce que vous êtes aussi subjugué comme Jean-Luc Reichmann par sa culture générale? Est-ce que vous êtes attaché à sa personnalité? Est-ce que vous rêvez de venir l'affronter peut-être vous aussi dans les 12 coups de midi? N'hésitez pas, vous pouvez lui poser toutes vos questions. Il y répond juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah.
Bonjour Damien et bonjour Bruno.
Bon Sarah, la tradition oblige, c'est un plaisir d'ailleurs de vous retrouver.
Ça moi aussi, ça je suis ravie.
On a passé l'été, voilà, nous revoilà ici tout bronzés. Donc les audiences d'hier, ça a donné quoi exactement?
Eh bien c'est M6 qui est en tête grâce à la saison 16 de L'Amour est dans le Pré. Un peu plus de 4 millions de fidèles hier soir sur la 6 étaient au rendez-vous, ce qui représente 20,8% de part d'audience. Sur une semaine, l'émission de Karine Lemarchand grappille même quelques téléspectateurs, 300 000 exactement, et 2 points de part d'audience. France 2 suit avec Les Héritiers. Ce téléfilm porté par Pierre Perrier et Carole Meyer a convaincu 3 400 000 personnes et 16% du public. Et TF1 est sur la troisième marche du podium avec Joséphine Ange Gardien qui accueillait Victoria Abril à 2 800 000 curieux et 13,9% de part de marché. Et on termine avec la TNT. Eh bien, Arte a doublé, W9, grâce au film Peur primale avec Richard Gere, un peu plus d'un million de cinéphiles et 5,2% de part d'audience.
Alors, on sait que les animateurs et même les sociétés de production en général sont très attentives aux audiences qui tombent chaque matin. Est-ce que vous les regardez aussi attentivement? Vous vous dites, tiens, hier, on était X millions à m'avoir regardé. Est-ce que vous regardez ça avec attention?
Au début, oui, puisque juste savoir, puisqu'on ne se rend pas compte quand on tourne, de se rendre compte, il y a 3, 4 millions de téléspectateurs. Donc oui, non, c'est surtout sur Instagram. Je suis le compte d'Andemol qui, tous les jours, poste les audiences. Donc voilà, parfois, je reposte. Je vois que Jean-Luc aussi, il est à fond, en disant « hier, 38%, etc. » Donc ça, je commence à maîtriser les audiences des 12 coups de midi, quelle est une bonne audience ou pas.
Il regarde un peu les audiences, Jean-Luc Reichmann.
J'imagine, oui.
Allez, on poursuit ces infomédias avec toute autre chose. Christine Kelly qui réagit au départ de son chroniqueur Éric Zemmour.
Et oui, on vous le racontait hier, CNews a été contrainte de se séparer de son éditorialiste star. La faute au CSA qui impose désormais aux médias audiovisuels de décompter le temps de parole de celui dont on présage la candidature à la présidentielle 2022. Et bien, en ouverture hier du premier Face à l'info sans Éric Zemmour, Christine Kelly y est revenue et s'est dite triste pour la liberté d'expression, même en deuil une heure plus tard, alors qu'elle était invitée chez Cyril Hanouna. Hier, pour remplacer Éric Zemmour, eh bien, ce sont 4 éditorialistes qui ont débattu, par exemple Dimitri Pavlenko, Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles, ou encore notre consoeur Eugénie Bastier du Figaro. Une table qui n'a pas vocation à rester telle qu'elle, puisqu'ils seront renouvelés, les chroniqueurs, chaque jour, et donc Éric Zemmour ne sera véritablement pas remplacé dans le fauteuil du chroniqueur permanent.
Qu'est-ce que vous regardez, vous, à la télévision, hormis évidemment faire l'actualité de la télévision grâce à votre participation dans les 12 coups de midi? Qu'est-ce que vous regardez?
Je regarde beaucoup de choses. Je suis un grand fan de télé. Là, en ce moment, c'est Koh-Lanta, mon émission. Voilà, ce soir, c'est mon rendez-vous Koh-Lanta fan depuis. J'ai tout vu quasiment depuis la saison 2. Et non, je suis fan de jeux télé, donc les jours en replay, tout le monde veut prendre sa place. Voilà, je me fais des petites fiches aussi en même temps qu'il y a des questions intéressantes. Ouais. Donc moi, mon émission number one, c'est Koh-Lanta.
Ça reste Koh-Lanta, donc vous espérez une victoire de Claude, c'est ça?
Je fais partie de ceux
qui... Vous n'aimez pas Claude?
J'adore Claude, mais je pense que quand on a... pas réussi à gagner 4 fois, c'est pas la peine de revenir une 5e fois.
Vous êtes sévère.
Ouais. Moi c'est bim. Non, que ce soit Claude ou Théoura, je suis pas fan. Je préférais que ce soit quelqu'un qui revient juste pour la 2e fois. Je trouve que 4 ou 5 participations, ça fait un peu, dit le mec qu'on a fait 230, mais je trouve que ça fait un peu too much quand même. Je préfère quand il y a un peu de renouveau.
Mais vous, c'est une saison des 12 coups de
midi. C'est différent.
On essaye de vous défendre ici, Bruno. Et allez, on termine ces infomédias avec une petite indiscrétion. Tiens, on sait pour qui va voter Michel Drucker en 2022. J'espère que ça vous intéresse.
Oui, enfin presque. Hier, il était invité chez Darius Rochebain sur LCI. Le présentateur de Vivement Dimanche a indiqué que si l'élection présidentielle avait lieu ce dimanche, eh bien, il voterait pour Emmanuel Macron, défendant sa dextérité intellectuelle et la force de son couple avec Brigitte Macron.
Eh bien, nous, on va parler de dextérité intellectuelle ici sur ce plateau parce qu'on a Bruno, le plus grand champion des 12 coups de midi. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Bruno, donc je le disais, vous n'êtes pas seulement le maître de midi obscur des 12 coups de midi sur TF1, vous êtes le plus grand champion de l'histoire de ce jeu diffusé sur TF1 et toujours animé par Jean-Luc Reichmann. Votre cagnotte, on le rappelle, est près de 980 000 euros. La question que tout le monde se pose, j'espère que vous allez pouvoir y répondre, est-ce que vous allez atteindre le million?
Je l'espère, mais...
vous n'allez pas spoiler.
Évidemment, il faut regarder tous les jours, 11h55 sur TF1. Après, encore une fois, ça serait classe de, ouais. Voilà, pour la première fois, quelqu'un dépasse le million. Après, je ne m'en fais pas à tout prix un objectif. Voilà, parce que je pense que c'est le meilleur moyen de se mettre la pression et de se louper et de se mettre un stress inutile. Donc, on n'en est pas très loin. Donc, ça, voilà, on va essayer d'y arriver quand même, mais voilà, pas de surpression non plus.
Il faut être très attentif d'ailleurs aux émissions de cette semaine, parce que potentiellement, vous pourriez dépasser le million cette semaine, en théorie.
Ça peut même arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain. Avec le montant de l'étoile, il suffit pour dépasser le million, il suffit de faire plusieurs coups de maître. Donc, c'est ça la magie de cette émission, c'est qu'on peut gagner 50 euros ou on peut trouver 30 000 euros de cadeaux. On ne sait jamais, donc en effet, mathématiquement, ça peut arriver à tout moment à partir d'aujourd'hui, donc on verra bien.
Sachant que le million d'euros n'a pas été atteint depuis 2004, hein, c'était une candidate de Qui veut gagner des millions, hein, qui à l'époque, en 2004, avait atteint cette somme. Elle est considérable cette somme, 980 000 euros, qu'est-ce que vous allez en faire de tout cet argent?
Je pense le gros va être placé. Ouais. Voilà, je ne suis pas un mec, je ne vais pas tout claquer à Vegas ou dans des voitures ou des montres, donc... Je pense que le gros, ça sera un peu des investissements locatifs, sûrement. Ouais. Voilà, acheter des appartements pour avoir des rentes, louer. Et après, en garder une partie pour sûrement faire des voyages, faire plaisir à la famille, des amis, passer des vacances, etc. Voilà, j'en avais donné un petit peu à des assos parce que je crois beaucoup au karma. Et comme j'étais passé pendant la période des pièces jaunes et du site d'action, du coup, j'en avais donné un petit peu en me disant « comme ça, j'ai gagné pendant leur période ». Mais voilà. Non, mais le gros va être placé sûrement dans des apparts et le reste pour se faire plaisir, pour des voyages.
Alors, c'est vrai que vous avez la somme pécuniaire, si j'ose dire, mais vous avez également les cadeaux qui, alors eux, sont nombreux, qui sont peut-être l'équivalent d'une montagne. Vous avez gagné 9 étoiles mystérieuses, autant vous dire c'est que vous avez pu ouvrir un garage avec toutes les voitures que vous avez gagnées. Vous avez peut-être une vingtaine de robots mixeurs chez vous. Enfin bon, vous n'êtes pas à plaindre de ce point de vue-là. Comment vous avez fait pour emmagasiner ces cadeaux? J'imagine que ça doit être colossal.
Ben oui, il y en a un petit peu chez plusieurs membres de ma famille, dans des garages, dans des greniers. Bon, après, l'avantage, c'est qu'une fois que tout est plié ou mis dans des cartons, finalement, ça prend pas tant de place que ça. Et après, c'est plus on l'offre à des amis. Enfin voilà, mon cousin a eu une console, Flavie, mon ami, en a eu une autre. Il y a plein de trucs qui s'offrent ou se vendent facilement, tout ce qui est téléphone, tablette, électroménager, cuisine, tout ça. Après, c'est plus certains objets qui prennent de la place, des trucs déco, etc. Donc là, je ne m'en suis pas encore trop occupé parce que c'est quand même très prenant de faire l'émission. Mais je pense que voilà, une fois que je serai éliminé, je me concentrerai sur un petit peu faire des annonces, le bon coin, etc. Et voilà, pour l'instant, je m'occupe juste de dispatcher quand j'ai des amis ou des collègues qui me disent « Ah, ça, je suis bien intéressé, etc. » Donc pour l'instant, ça se stocke un petit peu, mais petit à petit, ça part. Donc ça va, je vais bientôt être débarrassé de toute cette montagne de cadeaux.
Si vous avez une voiture de trop, sachez que mon anniversaire est le 19 novembre. Sarah, on tourne du côté des internautes.
Oui, il y a du monde sur la page YouTube de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Je vais prendre cette question un peu poil à gratter de Rico. Ah. Est-ce que TF1 veut faire effacer définitivement Christian Quesada? Et pensez-vous être un peu favorisé à cause de ça, Bruno?
Ah, Christian Quesada, on va recontextualiser, qui est un ancien maître de midi qui malheureusement, effectivement, a été condamné à la prison pour détention d'images pédopornographiques. Voilà, pour le contexte.
Enfin, malheureusement ou heureusement pour lui.
Ah oui.
Enfin, heureusement pour la justice.
Oui, oui, mais qui malheureusement pour la société.
Oui, voilà. Mais bon, il valait mieux qu'il soit condamné quand
bien
même
sûr.
Et qu'il fasse sa peine.
Bien sûr.
De toute façon, Eric, déjà, l'avait sorti du classement.
Ouais, mais il conservait le record de participation, me semble-t-il.
Je crois qu'Eric l'avait dépassé, mais de pas beaucoup le record de participation.
Ouais.
Que ce soit en cagnotte ou en participation, Eric était numéro 1 de toute manière, donc Christian n'était plus numéro 1. Après, peut-être qu'ils veulent qu'il soit le plus bas possible dans le podium ou dans le classement, ça, je ne sais pas.
C'est compréhensible.
Oui, de toute manière, quoi qu'il arrive, enfin, on n'en parle plus, on ne fait jamais référence à lui. Quand c'était Eric le champion, à chaque fois, on faisait référence à Eric. Maintenant, j'imagine qu'on fera référence à moi.
Oui, forcément, vu que maintenant, vous êtes le plus grand champion.
Exactement. Donc, je ne sais pas. Il l'effaçait. De toute manière, on n'en parle plus. Je ne suis pas sûr que dans la vie de tous les jours, les gens devant leur télé fassent référence à Christian.
Ouais.
Donc, voilà. Je pense que du moment qu'Eric l'avait dépassé, en fait, il tenait plus de record. Donc, est-ce que vraiment il importe encore dans l'émission? Je ne sais pas.
Alors, vous, au moment où vous êtes arrivé dans ce divertissement, vous exerciez la profession de chargé d'études à la régie publicitaire chez Eurosport, à la chaîne Eurosport. Et après 8 mois de récréation sur TF1, est-ce que vous avez encore des jours de congé à poser ou bien votre employeur commence à grincer un peu des dents?
Non, ça va. J'ai eu la chance que c'était un mal pour un bien, du coup, qu'il y avait un plan dans l'entreprise. Et du coup, en avril, Du coup, j'ai quitté l'entreprise. Et l'avantage, c'est que on savait déjà avant, selon les critères de sélection, etc., que j'allais quitter l'entreprise. Donc, du coup, mes chefs ont été super compréhensifs. Ils m'ont laissé poser tous les jours que je voulais pour faire les tournages, puisqu'on savait que dans quelques semaines ou dans quelques mois, de toute façon, j'allais quitter l'entreprise. Et donc, finalement, en avril, ils ont annoncé que je devais quitter, je faisais partie du plan. Donc, du coup, j'ai demandé à partir le plus tôt possible, histoire d'être libre et de faire l'émission pleinement. Et donc, voilà, du coup, à partir d'avril, j'étais totalement libre. J'avais plus d'histoire à poser des jours, m'inquiéter du travail, etc. Donc, au moins, les 12 coups de midi, c'est devenu mon travail à temps plein à partir d'avril. Et franchement, c'est pas plus mal parce que ça demande quand même une énergie, que ce soit physique, psychologique, l'enchaînement des tournages, réfléchir aux questions, etc. Ça consomme vraiment beaucoup d'énergie. Et je ne sais pas comment faisaient ceux qui avaient travail, enfants, famille. Ouais. Moi, je suis célibataire sans travail, je peux me concentrer à fond sur l'émission et encore, je suis crevé à la fin des tournages.
Donc, vous en tournez 5 par jour parfois, hein, c'est énorme.
Exactement, voilà, du lundi au jeudi. Ouais. Donc, on tourne à peu près 20 émissions par semaine, parfois pendant 3-4 semaines d'affilée. Donc après, évidemment, je ne me plains pas parce que c'est une super aventure, on s'éclate et il y a des gens qui travaillent à l'usine pour beaucoup moins d'argent dans des conditions pires. Mais quand même, moi qui ne suis pas très physique, rester debout pendant 10 heures toute la journée à réfléchir, je suis complètement crevé. Donc voilà, c'était finalement un mal pour un bien de ne pas avoir de travail et pouvoir me concentrer à fond sur l'émission.
Mais comment vous l'envisagez, votre avenir professionnel? Parce que j'imagine qu'avec 980 000 euros dans la poche, d'ailleurs les poches sont assez lourdes hein, quand on a 980 000 euros dedans, j'imagine que ça rabat complètement les cartes de votre avenir professionnel. Vous pensez que vous allez reprendre le travail d'ailleurs à un moment donné, vu que vous allez faire des investissements? Enfin, vous avez envisagé tout ça?
Pas vraiment. Pour l'instant, je me dis, quoi qu'il arrive, voilà, la priorité, ce sera gérer cet argent, le placer, puisqu'on ne va pas laisser cette ligne-là sur un compte courant. Faut bien le placer, l'investir. Donc, au moins, comme j'ai du temps libre, vu que je n'ai pas de travail, je pourrais, visiter des apparts, faire les démarches moi-même. L'immobilier, je trouve ça intéressant. Donc, au moins, m'investir là-dedans. Et puis, une fois qu'on aura fait tout ça, en effet, il faudra se poser. Quoi qu'il arrive, j'ai 30 ans, donc je ne pense pas que je vais me dire, allez, c'est bon, je suis rentier. Je tiens 50 ans sans rien faire. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, à un moment, faut, ne serait-ce que pour mon bien-être personnel, il faudra que je retrouve du travail. Mais là, l'avantage, c'est que j'ai quand même gagné littéralement plusieurs années de salaire. Donc, je ne suis pas dans l'obligation d'accepter un travail tout de suite. Et ça, c'est vraiment un luxe, parce que c'est quand même très rare les gens dans la vie qui peuvent se dire « j'attends plusieurs mois pour réfléchir à ce que je vais faire. On a toujours un loyer ou un crédit à payer. » Donc là, au moins, je me dis « j'ai plusieurs mois devant moi pour réfléchir à qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime faire. » Donc là, franchement, c'est une super chance, au moins avec les 12 coups de midi, je peux me poser et faire ce que je veux de ma vie. Ça, c'est un vrai luxe.
Je pense que vous êtes en train d'attiser des jalousies sur la page YouTube de TV Magazine. Est-ce que ça rage?
Complètement. Je vais prendre cette question de Thibaut. Est-ce qu'un jour, vous allez revoir Cyril Ferraud et jouer avec lui dans le nouveau jeu Le Champion des Champions sur France 2?
Oui, le revoir, puisque on peut rappeler que j'avais le record avec Mathieu, ancien collègue d'Eurosport. Ouais. De personne n'y avait pensé.
C'est ça.
Voilà, donc, j'ai quand même deux records. Le mec qui se la raconte, quand même. J'ai fait deux jeux de télé, deux fois le record. Bon, en grande partie grâce à Mathieu aussi, qui m'avait bien aidé, puisque c'était en binôme, personne n'y avait pensé. De toute façon, tant que je suis dans l'émission, dans les 12 coups de midi, je ne peux pas faire autre chose, surtout si c'est un prime sur une chaîne concurrente. Enfin, évidemment, je ne peux pas être le midi sur TF1 et à 21h sur France 2. Donc, de toute manière, tant que je suis dans l'émission, la question ne se pose pas. Déjà, contractuellement, je n'ai pas le droit de faire une autre émission. Et puis en plus, c'est même du bon sens, je ne vais pas tourner deux émissions en même temps. Donc tant que je suis dans l'émission, la question ne se pose pas. Après, on verra si l'émission cartonne et qu'ils font d'autres numéros et que je suis libre à ce moment-là.
Ou je ne sais pas, question pour un champion, d'autres jeux de culture générale, ça vous dirait?
Bizarrement, pour l'instant, non. En fait, je suis tellement à fond dans l'émission et là, je suis vraiment en plein dans la fatigue physique, psychologique, que je me dis quand ça se terminera, je pense que j'aurai besoin de faire du repos, de faire une coupure. Et puis, comme je le dis souvent, ce n'est pas un métier d'être champion d'un jeu télé. Alors, ça rapporte beaucoup et c'est super intéressant et passionnant à faire. Mais moi, je ne me verrais pas faire le tour de toutes les émissions en se disant, ensuite, on fait slam, ensuite, on fait question pour un champion. Ouais. Pour l'instant, il y a un tel tourbillon médiatique et ça demande tellement d'énergie que là, si on me demande à l'heure actuelle, je dirais que je ne serais pas intéressé pour faire d'autres jeux. Je pense qu'après l'émission, je préfère un peu me recentrer, couper avec tout ça. Après, il ne faut jamais dire jamais, parce que peut-être que c'est comme une drogue. Et dans un an, je voudrais refaire un plateau. Mais en tout cas, pour l'instant, non, je n'ai pas d'autres projets d'émission en tête.
Oui, puis puiser dans le fin fond de ses connaissances dans Question pour un champion pour à la fin gagner une encyclopédie sur les escargots de Bourgogne, est-ce que c'est très intéressant? Je vous pose la question.
Il y a quand même le challenge. Oui, et puis en plus, maintenant, avec Question pour un champion, il y a quand même des gains, ça va jusqu'à 150 000 euros.
C'est vrai.
Donc, c'est quand même pas non plus négligeable.
Mais bon, c'est vrai que sur TF1, il y a un peu plus de moyens, il faut reconnaître quand même.
On a de la chance là-dessus, ouais.
Alors, une rencontre importante que vous avez faite dans les 12 coups de midi, bien sûr, c'est Jean-Luc Reichmann, après 230 participations. Quel genre de lien vous avez tissé avec lui ?
Pour l'instant, c'est très professionnel. Mais Jean-Luc Reichmann, comme Z, par exemple, comme les réalisateurs, la productrice, vraiment, on a des liens très… Enfin, même si moi, ce n'est pas un travail, mais bon, j'y suis depuis 8 mois, donc on va limite considérer que c'est un job. Non, c'est très professionnel. Et je sais que c'est une fois que les maîtres de midi ne sont plus en place que là, peut-être, il y a des rapprochements. Je sais que souvent, ils s'organisent des week-ends entre eux. Par exemple, là, Jean-Luc Reichmann me vouvoie, alors qu'il tutoie tous les autres maîtres de midi, parce que vraiment, on veut garder cette distinction. Pour l'instant, je suis un candidat et je ne suis pas l'ami de Jean-Luc, l'ami de Zette. Donc, pour l'instant, on a des rapports très professionnels. Quand on se voit, on se dit juste à passer un bon week-end, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment professionnel. Et après, une fois l'élimination passée, peut-être qu'il y aura des rapprochements, comme c'est le cas avec tous les autres maîtres de midi. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On fait vraiment la séparation. Je ne suis pas ami avec la prod, pas ami avec la chaîne. Enfin, je suis un candidat, donc… On va en rester là.
Une dernière question avant de retourner du côté des internautes et après on fera notre dernière rubrique. Certains candidats ont parfois dû abandonner l'émission pour des contraintes professionnelles. Vous, ce n'est pas votre cas parce que vous avez rappelé que vous ne travaillez pas pour le moment. Mais est-ce que vous êtes fixé un nombre limite de victoires au-delà de laquelle vous n'irez pas ?
Non. Je me dis que ce serait peut-être pas respectueux pour les téléspectateurs ou les autres candidats. Autant quand Xavier a eu vraiment un impératif professionnel.
Je faisais référence à lui, effectivement.
Oui, que vraiment, il y a le job de ses rêves qui se présente et il ne pouvait pas repousser, ça se comprend. Là, si c'est juste dire, je dis n'importe quoi, je me suis fixé 250 émissions, donc à la 251e, j'arrête. Je me dis, c'est quand même un petit peu méprisant, une émission où on peut gagner autant d'argent. C'est bon, j'ai fait le tour, j'arrête. Pour tous les candidats qui m'ont affronté, qui n'ont pas pu gagner, ce ne serait peut-être pas très juste. Donc, je me dis, tant que j'ai l'énergie, la motivation, que je prends du plaisir et que je m'amuse, je continuerai. Et honnêtement, je préfère perdre d'une manière naturelle avec la mécanique du jeu plutôt qu'abandonner.
Sarah, dernière question ?
Oui, je vais prendre celle de François. Le regard des autres a-t-il changé depuis votre participation au jeu télé, depuis l'exposition ? Autrement dit, est-ce que vous vous êtes découvert des amis depuis que vous avez gagné tant d'argent ?
D'anciens camarades de maternelle qui sont venus vous recontacter, peut-être ?
Non, finalement, pas trop. Ou alors, c'était vraiment pas de manière intéressée. C'est-à-dire que personne ne m'a jamais rien demandé. Ouais. C'était plus des gens qui disent, t'as des amis du collège avec qui on n'est plus en contact, qui disent en zappant, j'étais chez ma mère ou chez ma grand-mère, en zappant, je t'ai vu, et qui se disent, mais non, on dirait Bruno, et qui recontactent sur les réseaux, tout ça, donc c'est sympa. Non, après, c'est plus le fait d'être reconnu par des inconnus, on va dire, au quotidien. Mais franchement, les gens ont toujours des retours positifs, c'est toujours bienveillant. Ouais. C'est toujours, est-ce qu'on peut faire une photo ? Ah, ma mère vous adore, etc. Donc, tant que ça reste positif et bienveillant, j'ai aucun souci.
Mais est-ce que ça change malgré tout les relations humaines ? Est-ce que vous méfiez davantage des gens qui viennent vous parler ? Parce que vous l'avez dit, vous êtes célibataire. À un moment donné, si quelqu'un vient vous voir, peut-être que vous allez vous dire, est-ce que tu viens pour mon argent ? Est-ce que tu viens pour ma notoriété ? Ou est-ce que vraiment tu es attiré par moi ?
Après, je ne suis pas non plus Madonna, je n'ai pas 28 villas.
Non.
Être intéressé, vous me direz, il y en aura toujours.
Bien sûr.
Mais là, l'avantage, c'est que ça prend tellement de temps et d'énergie, le tournage, que je n'ai pas le temps de faire des rencontres ou autre. Donc, pour l'instant, la question ne se pose même pas parce que je ne rencontre personne de toute manière. Je vis
limite… Parmi les candidats, non ? Il y a quand même beaucoup de candidats qui viennent jouer, oui. Viennent vous défier.
Vous en avez vu passer quelques dizaines, quand même, faut reconnaître.
C'est vrai, oui. Oui, 3 par jour.
Ça fait beaucoup.
Depuis le 20 janvier. Vous savez, il y a un rythme de tournage quand même. On discute un petit peu, mais on n'a pas le temps non plus. Il y en a certains avec qui on sympathise, on rigole, on peut s'ajouter sur Insta, etc. Mais on n'a pas le temps ensuite d'aller prendre un verre. C'est vrai que c'est quand même un rythme assez intense. Donc, non. Bon, mais je pense que de toute façon, je suis assez terre à terre. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, je ne devrais pas. Après, évidemment, personne ne dit qu'il est le style à se faire arnaquer. Mais je pense que je suis assez terre à terre. Et normalement, je pense, j'ose croire que je ne vais pas me faire avoir par des gens intéressés. De toute façon, si je place bien l'argent dès le début, il n'y a pas de raison. Donc, je crois quand même en la nature humaine. Il y a quand même des gens sympas et pas intéressés.
Mais peut-être que là, vous allez déchanter. Parce qu'on va vous poser des questions où vous allez devoir répondre en toute franchise. Vous allez voir, d'ailleurs, c'est le nom de notre dernière rubrique. Alors, en toute franchise, Bruno, vous allez voir, c'est facile. Nous allons vous poser toute une série de questions et vous allez devoir y répondre avec le plus de sincérité possible. Alors, la première question qui est, ma foi, assez simple. Quel est votre plus beau souvenir dans les 12 coups de midi ?
Peut-être la première fois quand je gagne et que du coup, je ne m'y attendais pas. Et, Et du coup, je faisais l'émission comme ça, pour le fun, pour le délire. Et quand Jean-Luc annonce pour la première fois « Vous êtes maître de midi », c'est là qu'on se dit « Ah ouais, j'ai fait plus que ce que je m'étais fixé, plus d'objectifs ». Et là, tu t'en rends pas compte, mais ouais, ça va déclencher un truc incroyable qui change toute ta vie. Donc, je pense que voilà, la première fois où je gagne le coup fatal et on me dit « Vous êtes le maître de midi », là, je me dis « Ah ouais, ok, c'est la classe ». Donc, ouais, voilà, non, c'était peut-être ça mon meilleur souvenir.
Et après le meilleur, le pire, quel est votre pire souvenir dans l'émission ?
Je pense que c'est toutes les fois, bon, c'est pas arrivé souvent, mais les fois où je passe dans le rouge. Et donc là, on est obligé de défier quelqu'un et on se dit, bah, ça, c'est plus entre mes mains. Si la personne répond bien, je m'en vais, etc. Et c'est plus, on s'en veut. Genre, on se dit, mais pourquoi j'ai répondu ça ? Pourquoi j'ai choisi telle proposition, etc. Et après, on ressasse et enfin, on est vraiment dans un mauvais mood pendant très longtemps. Et donc voilà, je pense que toutes les fois où quand je dis une réponse, et là Jean-Luc dit que c'est faux, tu passes dans le rouge, et là tu te décomposes et tu dis bon allez, ça se trouve je vais partir.
Oui, parce que votre destin ne vous appartient plus, pour ceux qui ne regardent
exactement
pas.
Exactement, si l'autre répond bien, bah, on est éliminé. Et c'est là où, même quand la personne, et limite quand la personne répondait bien, moi je m'en voulais pour lui, et je me disais bah non, c'est pas juste, c'est moi qui me suis trompé. Et après voilà, tu tires la gueule pendant toute la suite de l'émission, et t'es censé te remotiver parce qu'il y a de la musique, il faut danser et tout, et toi t'es là, bah non, je suis nul, laissez-moi tranquille. Donc, je pense voilà, les deux fois où je suis passé dans le rouge, là vraiment j'étais pas top.
Est-ce que vous avez un toc ou une manie avant d'entrer en plateau?
Pas vraiment, c'est... Alors, c'est plus l'alimentation.
Ouais.
Voilà, c'est mon Coca-Zéro et mon Savane.
C'est vrai, petit confirme. Vous nous en avez demandé un avant de rentrer sur ce plateau.
Exactement, parce qu'en fait, je ne bois pas de thé, je ne bois pas de café, je ne fume pas. Du coup, je n'ai rien pour tenir. Et du coup, les émissions sont assez compliquées. Et du coup, je pense que c'est psychologique, parce que du coup, il n'y a pas de sucre dans le Coca-Zéro. Mais du coup, je me suis dit, allez, ça remplace le café. Et donc, voilà, j'ai consommé beaucoup de Coca-Zéro depuis le 20 janvier. C'est un peu mon habitude avant l'émission.
Est-ce que vous avez un mentor ?
Dans la vie ou dans l'émission
Dans la vie, ouais.
Dans la vie, ouais.
Quelqu'un que vous admirez par-dessus tout ? Un modèle pour vous ?
Vraiment très présomptueux, hein, mais moi, ce serait Simone Veil.
Oui, bien sûr.
Mais alors, du coup, rien à voir avec l'émission, rien à voir.
Non, mais c'est...
Enfin, voilà, si on me demande pour le parcours de vie, voilà, cette femme, elle a quand même tout connu. La Seconde Guerre mondiale, le féminisme, la construction européenne, elle a vraiment tout fait, donc... Voilà, ça serait, s'il fallait choisir une personne qu'on admire, ce serait Simone Veil.
Si vous pouviez faire renaître une seule personne, qui choisiriez-vous ?
Du coup, à part Simone Veil.
À part Simone Veil. Oh, vous pouvez répondre Simone Veil à chaque fois, mais à un moment donné, ça risque d'être gênant.
Je ne sais pas, peut-être personnage historique, je ne sais pas, peut-être Cléopâtre.
Cléopâtre.
Voilà, puisque je me suis dit comment cette femme a pu faire chavirer des empires, mener des hommes aussi puissants à la baguette, qu'est-ce qu'elle avait ? Donc voilà, voir en vrai Cléopâtre.
C'est un bon choix, effectivement. Voilà.
Et autre question, vous devez inviter 3 personnes à un dîner. Qui choisissez-vous ?
Morte
ou vivante,
oui,
d'ailleurs ?
Et connue, parce que bon, si c'est Jean-Jacques, le voisin de palier, ça ne nous intéresse pas.
Si je dis ma mère et mon cousin, ce n'est pas très fun. Je ne sais pas, j'aime beaucoup Tchaïkovski. Ça fait vraiment, je me raconte, hein, le mec qui balance Tchaïkovski comme ça.
Non, mais... On vous découvre aussi cette manière.
Et je dirais Tchaïkovski, le compositeur. En littérature, je suis un fan de Tolstoï.
Ouais.
Du coup, il faudrait que j'apprenne le russe pour discuter avec
lui.
Et Mylène Farmer.
Ah oui, effectivement, c'est
très éclectique.
Ah oui.
Je suis sûr qu'on pourra avoir des conversations passionnantes tous les 4. Bon, alors, je ne serai pas trop au niveau des 3 autres, donc je serai plus à les regarder parler. Mais voilà, ce seraient les 3 que j'admire.
Tolstoï à côté de Mylène Farmer, ça peut être intéressant, effectivement.
Écoute, on parlera de Russie très longtemps.
Si vous n'aviez pas travaillé dans l'univers de la publicité, quel métier auriez-vous pu exercer ?
Quand j'étais petit, je voulais être facteur.
Ouais.
Voilà, et puis après, je me suis rendu compte qu'il fallait pédaler, faire du vélo. Je ne suis absolument pas sportif, donc j'ai très vite abandonné. Non, je ne sais pas, peut-être, je suis fan de Grèce, antiquité, mythologie. Donc, j'aurais bien vu un truc dans l'archéologie ou dans l'histoire ou prof. Enfin, voilà, quelque chose en lien qui permette de voyager en Grèce, ça serait pas mal. Je n'ai pas trouvé, mais... Faut peut-être que je reparte sur une fac de droit et que je fasse 8 ans d'études.
Mais,
exactement, ce serait une longue reconversion, mais voilà, dans cet univers-là.
Qu'est-ce qui vous déplaît le plus chez vous dans votre caractère ou votre apparence physique ?
Je ne suis pas fan de mes cheveux. Ils sont très crépus, c'est pour ça que je les coupe souvent. Ils sont incoiffables.
Vous en avez, vous avez de la chance, c'est pas le cas
vrai,
tout le monde.
C'est vrai, mais souvent que les coiffeurs me disent « vous n'avez pas un cheveu facile », oui, je sais. Non, ils font vraiment leur vie, du coup, ils sont
autonomes. Quoi.
Ouais, voilà. Je me lève le matin et je vois quelle tête j'aurai, et je me dis « bon, c'est comme ça ». Donc physiquement, on va dire mes cheveux, Et peut-être en trait de personnalité, je ne sais pas, je suis peut-être quand même un petit peu introverti. Et par exemple, en soirée, je suis toujours sur la réserve à attendre de voir qui parle, etc. Et donc, il faudrait que j'apprenne à être un peu plus avenant, un peu plus dans la rencontre, quoi. Je suis un peu trop introverti.
Quelle est votre plus grande phobie ?
J'ai pas tant de phobie que ça. Ouais. J'ai pas le vertige, j'ai pas...
On va peur des araignées.
Ouais, on va peut-être dire les araignées, parce que... Ouais. Mais bon, je viens de la campagne, donc j'ai l'habitude de voir les araignées. C'est pas une phobie en mode tétanisé.
Non.
Mais ouais, non, j'ai pas une phobie vraiment qui me tétanise.
Peut-être c'est les araignées. Vous avez de la chance, tout simplement.
Alors, la prochaine question est peut-être difficile. Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez ?
Le plus précieux, alors, celui que j'ai... alors en ce moment, c'est peut-être ma Play 5 que j'ai gagnée dans l'émission.
Dans l'étoile mystérieuse.
Exactement, c'est l'objet qui me sert le plus. Non, et sinon, de point de vue symbolique, peut-être un coussin. Je dors toujours avec un coussin orange.
Ah ouais ?
Et voilà, et quand je vais chez mes parents, chez mes grands-parents, j'amène ce coussin dans ma valise et je dors toujours avec ce coussin.
Et il appartenait à quelqu'un qui vous était très cher ?
Pas du tout, je sais pas, j'ai dû l'avoir depuis que je suis petit. D'accord. Et puis quand je l'ai pas, ma tête n'est pas confortable. Et voilà, donc j'amène souvent ce coussin orange avec moi.
Allez, dernière question, la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment ?
En ce moment, j'ai découvert, c'est pas très récent, mais Follow You de Imagine Dragons.
Ah oui.
Voilà, je l'avais découvert dans l'émission, elle passait quand les candidats rentrent, oui. Il y a une ambiance sonore et j'ai adoré cette chanson et j'ai dit mais c'est laquelle ? Et voilà, et du coup je l'écoute en boucle depuis quelques semaines.
Et ben voilà, c'était la playlist de Bruno, merci beaucoup d'avoir
Avec
accepté
plaisir.
Notre invitation Bruno. Je rappelle que vous êtes le plus grand champion de l'histoire des 12 coups de midi, on vous souhaite bonne chance sur
beaucoup.
TF1 dans le jeu animé par Jean-Luc Reichmann. Merci Sarah d'avoir relayé les questions des internautes et nous on se retrouve demain toujours avec un invité, cette fois-ci on va passer du divertissement au journalisme puisque l'on va recevoir un présentateur qui officie au sein du groupe TF1 sur LCI, la chaîne d'information en continu, il présente Brunet et compagnie. Son nom, c'est dans le titre de l'émission. Demain, nous recevrons Éric Brunet sur le plateau du Buzz TV. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à demain pour un nouveau Buzz TV.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh.
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.